Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Au menu, la Corée du Nord annule la visite de Ban Ki-moon. Les humanitaires se félicitent de l'engagement de la Malaisie et de l'Indonésie vis-à-vis des migrants en Asie du Sud-Est. Des pourparlers sur le Yémen sont prévus à Genève. Le droit des enfants en Érythrée, tension entre Bantous et Pygmées en RDC. En dossier gros plan sur les démarches politiques de l'ONU au Soudan du Sud. Enfin, comment renforcer la sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne. On commence avec la décision de la Corée du Nord d'annuler la visite que le secrétaire général de l'ONU avait prévu d'effectuer jeudi sur un site industriel nord-coréen. Aucune explication n'a été donnée au sujet de ce changement de dernière minute, a déclaré Ban Ki-moon en visite actuellement à Séoul. Il a jugé très regrettable cette décision, tout en soulignant qu'en tant que secrétaire général, il n'épargnera aucun effort pour encourager la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et ailleurs. Le HCR et l'OIM se sont félicités ce mercredi de l'engagement annoncé aujourd'hui par les ministres des Affaires étrangères de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Thaïlande pour résoudre le problème des milliers de réfugiés et de migrants bloqués dans des bateaux dans la baie du Bengale et au large des côtes de l'Asie du Sud-Est. Cette décision devrait enfin permettre de sauver les vies de ces migrants et constitue une première étape importante dans la recherche de solutions à ce problème. Leonard Doyle, chargé d'information à l'OIM.
Finalement, on voit que ces gouvernements ont fait le nécessaire pour protéger les droits humains de ces migrants et réfugiés et qu'ils comprennent que l'impératif est de sauver des vies de ces migrants dans le golfe de Bengale et la mer d'Andaman. Ils sont là depuis plus que 3 semaines. Ils n'ont pas de l'eau, pas de nourriture. Ils sont sans abri. Et on sait qu'il y a des problèmes graves sur les bateaux, qu'il y a des bagarres entre les gens, qu'il y a des gens qui ont été jetés hors dehors sur la mer de ces bateaux et qu'il y a des grands problèmes. Il y a de la violence sexuelle. Les femmes sont violées par les passeurs d'hommes et les enfants sont séparés de leur famille et maltraités. Les hommes sont battus et jetés par-dessus bord. Il y a beaucoup de problèmes et c'est certainement les passeurs qui sont responsables.
Des consultations inclusives sur le Yémen devraient débuter le 28 mai à Genève, d'après le secrétaire général de l'ONU, qui a salué cette nouvelle opportunité de redonner de l'élan à un processus de transition politique mené par les Yéménites. Cette initiative est le fruit de nombreuses consultations menées par l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, Ismail Ul-Sheikh Ahmed, et devrait rassembler un large éventail d'acteurs yéménites. Elle bénéficie également du fort soutien du Conseil de sécurité en faveur d'un processus de transition politique pacifique et mené par les Yéménites. Le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport périodique présenté par l'Érythrée à Genève sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l'enfant. Lors des débats, la délégation érythréenne a été interpellée sur la situation de la jeunesse et de l'exil de nombreux hommes pour fuir en particulier un service militaire apparemment illimité. Alpha Diallo a suivi.
Devant le Comité des droits de l'enfant, l'Érythrée a reconnu l'obligation nationale de la conscription militaire. S'il ne s'agit pas de l'imposer indéfiniment, l'objectif est d'abord de permettre aux jeunes dès l'âge de 17-18 ans de bénéficier d'une formation civique avant le service militaire proprement dit. Mais Asmara envisage à terme de limiter la durée du service national sans donner plus d'indications. En réponse à d'autres questions sur le service militaire et la fuite des adolescents, la délégation érythréenne a rappelé que ce service sous les drapeaux n'excède pas 18 mois et 1 mois pour les camps préparatoires. Concernant l'exil de nombreux adolescents, l'Érythrée parle de tragédie en raison du sort funeste qui les attend lors de la traversée de la Méditerranée. Dans ces conditions, Asmara en appelle au reste du monde pour l'aider à juguler ce fléau. Lors des débats, des experts du Comité des droits de l'enfant ont plaidé pour l'amendement des obligations militaires de la jeunesse. Cela éviterait, selon ces experts onusiens, aux garçons érythréens de fuir les pays et les filles de se marier au plus vite pour échapper au Sawa, ces fameux camps d'entraînement militarisés qui précèdent le service militaire obligatoire en Érythrée. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
En RDC, les tensions entre Bantous et Pygmées ont fait plus de 200 morts, une soixantaine de femmes violées et 113 villages incendiés en 5 mois. À Nyunzu, dans le nord du Katanga, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, s'est rendu dans la région. Il s'est dit choqué par le degré de violence dans le conflit. Reportage d'Expedite Mwamba Mubi.
avec 113 villages incendiés, 200 morts et une soixantaine de femmes violées depuis le mois de janvier 2015, on assiste à une escalade dans le conflit entre pygmées et bantous dans le territoire de Nyuzu. Au cours de sa visite, le patron de la MONUSCO a rendu visite aux 4000 déplacés pygmées hébergés dans les installations de la Kotanga, et cela dans une promiscuité totale. Martin Kobler a été également touché devant la foule des quelques 8000 déplacés bantous venus lui exprimer leur désolation alors qu'ils se retrouvent dans des familles d'accueil. Le numéro 1 de la MONUSCO reste convaincu, seule la voie du dialogue permettra de sortir de la crise à Nyuzu. Expédie Mwambamobi, Radio Okapi.
Au siège de l'ONU à New York, le Forum sur l'énergie durable pour tous a ouvert son segment ministériel ce matin. À cette occasion, Kande Yumkela, le représentant spécial du secrétaire général pour l'énergie durable pour tous, a appelé au lancement d'une révolution énergétique pour que même les pays riches utilisent l'énergie différemment. Sinon, ce sont les émissions d'une poignée de pays qui nous mèneront vers l'enfer climatique, a-t-il averti. Kande Yumkela a aussi indiqué que cette révolution nécessitera des investissements d'un montant de 800 milliards de dollars par an. On l'écoute.
La question est, comment alimenter la troisième révolution industrielle, créer de la prospérité, des emplois, de la richesse, tout en maintenant le thermostat de la planète en dessous de l'augmentation de 2 degrés. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu parler d'énergie d'une manière amicale et civilisée pendant 2 décennies, c'est parce que les politiques n'étaient pas bonnes. Avoir le courage de changer un système énergétique sur lequel nous avons été dépendants pendant plus de 100 ans est une question d'ordre politique.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a dénoncé mercredi une attaque perpétrée à Melut, dans l'état du Haut-Nil. 2 obus de mortier ont atterri à l'intérieur du camp de la mission qui abrite également des civils, causant la mort de 4 civils, dont une femme et un enfant. 8 personnes sont sérieusement blessées. Cette détérioration intervient alors que le regain des violences dans l'état d'unité ne s'est toujours pas amélioré. Au micro de Tsige Chiferau, Mustapha Soumaré, représentant spécial adjoint aux affaires politiques de la MINUS, explique la situation dans l'état d'unité et les efforts mis en place par l'ONU pour tenter d'atténuer les tensions.
La situation est vraiment confuse. Le bilan se fait par rapport au déplacement des populations. Alors quand vous avez un nombre aussi important d'environ près de 300 000 personnes qui se déplacent, je crois que c'est un indicateur très fort, très puissant, qui prouve que la situation est vraiment très 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 difficile.
Ces dernières attaques ont provoqué le départ d'environ 300 000 personnes. Où vont ces gens?
Certains d'entre eux viennent encore dans les camps que les Nations Unies avaient mis en place. Et ça, j'avoue, c'est vraiment une approche tout à fait nouvelle. Je n'avais jamais vu une mission des Nations Unies avec une telle mission spécifique vraiment concernant la protection des civils. Mais il n'y a pas le choix. Parce que je crois que dans le cadre des droits de l'homme, de la mission de protection des civils, il est clair que nous devions faire quelque chose pour que nous puissions un peu soutenir ces personnes qui souffrent en fait. On a le mandat de la protection des civils, mais ce n'est pas simplement les civils qui sont les déplacés qui sont dans nos camps. C'est vraiment normalement pour toute la population. Et pour que nous puissions le faire, la seule façon de faire cela, c'est de pouvoir faire des patrouilles régulières. Malheureusement, avec ça, les blocages qu'il y a sur les routes et tout, ça nous met vraiment dans des situations pas toujours faciles.
Qui bloque?
C'est au niveau des autorités gouvernementales, notamment le SPLA.
Quelle solution concrète la mission peut-elle apporter pour apaiser la situation?
Nous faisons tout pour avoir d'abord des discussions au niveau du gouvernement. On a aussi des contacts à travers le bureau de l'envoyé spécial avec aussi l'opposition, donc ce qui nous permet aussi d'envoyer des messages. Jusqu'à présent, nous envoyons les messages à travers le bureau de M. Menkeros. Et M. Menkeros et Ellen Loy, la SRHD, sont en contact. Donc, à cause de cette bonne collaboration jusqu'à présent vraiment qui a existé entre le représentant spécial, le secrétaire général et l'envoyé spécial pour le Soudan, ça a permis au moins de pouvoir donner des messages. Nous donnons de notre côté au gouvernement à Djouba et à travers justement le bureau de Menkeros, Le message aussi est donné au niveau de l'opposition.
Mais concrètement, qu'est-ce que l'ONU attend, par exemple, de la part du gouvernement et de la part de l'opposition ?
Je crois que le message est très clair. Il faut un cessez-le-feu. C'est pourquoi nous donnons beaucoup d'espoir. Nous pensons que maintenant, avec la nouvelle formule qui est en train d'être lancée, qu'ils appellent IGAD+, avec donc l'élargissement avec l'Union africaine, l'élargissement aussi avec d'autres partenaires comme la Chine et autres, que cela va pouvoir mettre une sorte de pression sur les deux parties pour qu'ils puissent comprendre quand même que vraiment le pays a besoin de stabilité. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que quand on voit la situation économique au niveau du Sud-Soudan, vraiment, ça interpelle.
Comment interprétez-vous le fait que depuis son indépendance suite au référendum, le pays a pour ainsi dire été instable ?
Dans les négociations, les accords de paix, il faut aller par étapes. Je crois que la première étape qui était franchie, c'était d'avoir l'accord de paix. Et maintenant, l'idée, c'était, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord de paix, de pouvoir maintenant voir quels sont les défis. Avant l'accord de paix, c'était le Sud-Soudan contre un ennemi. Maintenant, ça devient interne.
Bien que la région méditerranéenne ait toujours été un vivrier agricole, la plupart de ces pays produisent aujourd'hui des quantités insuffisantes de denrées alimentaires. Les ressources naturelles de la région sont confrontées à des contraintes grandissantes. La population devrait connaître une forte croissance de presque 30% d'ici 2030 et les précipitations dans la région pourraient diminuer de 10 à 40% d'ici 2050. Pour tenter de remédier cette situation, la FAO, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et l'Union pour la Méditerranée ont récemment organisé le forum de deux jours sur la contribution du secteur privé à la sécurité alimentaire dans la région. Pour en savoir plus, Muriel Sarr, adjoint Emmanuel Idier, économiste principal au siège de la FAO.
La population des pays du sud et de l'est de la Méditerranée a un taux de croissance élevé et continuera à avoir un taux de croissance élevé. Donc on estime que d'ici à 2050, elle devrait atteindre 360 millions, c'est-à-dire 110 millions de personnes en plus. D'autre part, les ressources naturelles disponibles pour l'agriculture dans la région, notamment les terres arables et l'eau, sont de plus en plus limitées en vue des conséquences du changement climatique. On estime que d'ici à 2050, le niveau de précipitation dans la région risque de baisser de 10 à 40%.
Quelles sont les conséquences de cette situation ?
Tous les pays de la région sont maintenant devenus des importateurs nets de produits agricoles, à part la Turquie. Et déjà en 2013, le déficit commercial atteignait 70 milliards de dollars. En plus, si on regarde des produits de base comme les céréales, le sucre ou les huiles végétales, la région importe la moitié de ces produits. Donc, c'est clairement un point important sur la balance des paiements qu'il faut que ces pays financent. Il y a dans la région une forte prévalence de foyers avec des revenus faibles, ce qui fait que dès que les prix agricoles internationaux augmentent, cela a une répercussion immédiate sur leur capacité à acheter leur nourriture quotidienne. Et la conséquence indirecte, c'est que cela peut aussi créer des troubles sociaux.
Quels sont les principaux défis auxquels la région est confrontée ?
L'un des défis auxquels la région est confrontée est de pouvoir changer des politiques qui actuellement en fait aggravent la situation mais qui sont sensibles d'un point de vue politique. Par exemple, en Égypte, le prix du pain est actuellement fortement subventionné. Ça place sur le budget de l'État un fardeau de plus en plus important. Un autre défi, c'est certainement de réussir à libérer le potentiel de production de l'agriculture qui est caractérisé par de nombreuses petites exploitations agricoles et aussi par de nombreuses PME dans les zones rurales. Et enfin, je dirais que le troisième niveau de défi, c'est d'introduire plus d'efficacité à tous les niveaux des filières agroalimentaires. Par exemple, on estime qu'actuellement, plus d'un tiers des produits agroalimentaires importés ou produits dans la région sont tout simplement perdus. Mais ça implique des investissements et aussi toute une série d'implications en termes d'organisation des filières.
Que propose la FAO et ses partenaires pour faire face à cette situation ?
C'est vraiment de réussir à donner plus de voix au chapitre au secteur privé, partant des associations agricoles jusqu'aux entreprises locales. On a déjà beaucoup travaillé sur cette thématique dans les pays en voie de transition et en fait, on a réalisé que c'est vraiment vraiment un outil très puissant pour faire en sorte que les politiques agricoles soient vraiment favorables à l'investissement agricole et n'en soient pas des freins comme c'est parfois le cas. Concrètement, les solutions sont autour de politiques qui, à nouveau, soutiennent des technologies ou des bonnes pratiques pour l'utilisation de l'eau, des politiques qui favorisent des productions qui, en fait, génèrent plus de valeur par rapport à l'utilisation des ressources. L'autre niveau de solution, en fait, à explorer est lié à la fragmentation des exploitations agricoles. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les pays méditerranéens de la rive nord ont fait et où un support actif d'organisations telles que les coopératives agricoles ont permis d'améliorer l'accès au financement et au marché des producteurs.
Et c'est avec Emmanuel Idier que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.